VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du mardi 20 décembre 2016. Bonjour. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Situation toujours tendue en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a nommé hier un nouveau gouvernement, peu avant l'expiration de son dernier mandat.
Monsieur Kabila reste cependant à son poste. Nous aurons des réactions de l'opposition à Kinshasa.
À Berlin, en Allemagne, 12 morts au moins et une cinquantaine de blessés quand un camion a foncé sur la foule hier soir dans un marché de Noël.
Et à Ankara, un homme a ouvert le feu devant l'ambassade américaine à Ankara. La chancellerie a été fermée et auparavant, assassinat, toujours à Ankara, de l'ambassadeur russe par un policier turc qui dit venger Alep en Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, le président Joseph Kabila a nommé une nouvelle équipe gouvernementale au dernier jour de son mandat. L'équipe que va diriger Sami Badibanga est composée de 67 membres. Ce gouvernement, fruit de l'accord politique du 18 octobre dernier, ayant sanctionné le dialogue politique tenu à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, va gérer le pays pendant la transition et le conduire aux élections. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est une équipe de 67 personnes au total qui compose ce nouveau gouvernement d'union nationale, fruit de l'accord politique sanctionnant le dialogue facilité par le Togolais Edem Kodjo. Trois vice-premiers ministres, dont deux du PPRD, Cheikh Tundu qui revient aux affaires étrangères, Ramazani Shadari qui remplace Evariste Boshab à l'intérieur et l'opposant José Makila au transport. Sept ministres d'État, parmi lesquels Alexis Thambo Mwamba confirmé à la justice, Pierre Kangoudia de l'UNC de Vital Kamerhe ou encore Azarias Rouberoy, l'ancien vice-président de la République nommé à la décentralisation. 34 ministres avec notamment de nombreux opposants signataires de l'accord ayant sanctionné le dialogue de l'Union africaine et 22 vice-ministres. Du gouvernement Matata, on note la reconduction de Lambert Mende Omalang à la communication et médias, Bahati Lukwebo à l'économie, Henri Yav Moulang aux finances, Martin Kagwelulu aux mines ou encore Thomas Louaka, nouveau ministre des infrastructures. Parmi les entrées remarquables dans ce gouvernement, a signalé celle de Clément Kankoubou-Kassa, député de l'opposition, membre du rassemblement mais signataire de l'accord politique, le docteur Losseke, récemment suspendu de ses fonctions à l'UDPS, nommé vice-ministre des Finances, ainsi que le docteur Ilunga, autre proche d'Étienne Tshisekedi, nommé à la santé. La réaction du rassemblement de l'opposition que dirige Étienne Tshisekedi, qui discute actuellement avec la majorité sous les auspices de la CENCO, reste très attendu. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La lecture de la liste du cabinet a été donnée à l'antenne de la télévision publique peu avant minuit, heure à partir de laquelle les détracteurs les plus virulents du président Kabila considèrent qu'il n'est plus légitime. Après cette annonce, des tirs d'armes à feu ont été entendus par des journalistes de l'AFP dans deux quartiers du nord de Kinshasa. Leur origine était difficile à déterminer. Peu avant, plusieurs quartiers de la mégapole congolaise, transformée en ville morte lundi, avaient résonné de concerts de sifflets et de tambours improvisés avec des casseroles, symboles de carton rouge qu'une coalition d'opposition a menacé d'infliger à M. Kabila au pouvoir depuis 2000 ans.
Et alors que toutes les grandes villes congolaises étaient placées sous étroite surveillance policière et militaire, le conseiller diplomatique du président Kabila, Barnabé Kikaya Binkaroubi, a déclaré hier après-midi « Je ne vois pas M. Kabila céder à une pression quelconque, sinon à celle du peuple » et d'ajouter « La population congolaise ne fait pas pression sur le président Kabila ». À Kinshasa, mégalopole de 10 millions d'habitants, la population a jugé prudent hier de rester massivement chez elle. La plupart des commerces sont restés fermés et les rues désertes, ou presque. Les principales villes du pays, Lubumbashi, Kisangani, Mbujimayi, ont également tourné au ralenti.
Et Narval Mabila, notre correspondant à Lubumbashi, a signalé ce matin que dans cette ville, la police a dispersé des personnes qui tentaient de manifester aujourd'hui. C'est donc à minuit qu'est intervenue techniquement la fin constitutionnelle du dernier mandat du président Joseph Kabila. Mais celui-ci reste de fait à son poste, faute d'élection. Les réactions de l'opposition avec Eddy Issango.
Pour Martin Fayulu, membre du comité des sages du rassemblement, même si toute manifestation a été étouffée par la force policière, les Congolais se sont exprimés en restant chez eux et continueront à les faire.
Le peuple congolais a démontré qu'il ne veut pas de M. Kabila. Le peuple congolais a démontré que lui est capable de prendre une décision et de la respecter. Le peuple congolais a dit qu'il se préparait à donner un carton rouge à M. Kabila. Vous avez vu que tout le pays était assimilé à un pays mort. Donc ça, c'est les Congolais. Eux-mêmes, ils ont compris le sens de l'article 64 de la Constitution et ils ont trouvé qu'il y a un monsieur qui voulait violer la Constitution. Ils lui ont dit non.
Le sénateur Raymond Ramazani du Mouvement pour la libération du Congo et de la plateforme Front pour le respect de la Constitution estime, lui, que les pouvoirs ont fait un mauvais calcul.
C'est, je crois, des calculs à court terme. S'ils pensent avoir gagné un certain répit, mais c'est un répit de très court terme, parce qu'à long terme, c'est une situation qui va certainement se retourner contre ce qui semble se réjouir aujourd'hui. C'est le chef de l'État qui est à la tête de cet exécutif-là. Donc, on ne peut pas en même temps donner une prime à l'instance qui aurait dû s'interroger, en tout cas ne pas avoir un regard passif, presque complice, sur la non-organisation des élections, lui accorder une sorte de prime en plus.
Steve Mbikayi, nommé ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, estime que même si c'est la stratégie que l'opposition avait qualifiée du glissement qui se met en place, il faut de la patience jusqu'à la présidentielle en 2018.
C'est normal qu'il y ait un peu cette inflorescence, mais je suis l'un des signataires de l'accord de la tenue africaine. Cette question me semble être déjà arrivée par cet accord. Et aussi par l'article 70 de la Constitution. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait un large consensus qu'on puisse entendre avec nos frères, nos signataires. J'espère bien que cette semaine, nous pourrons tomber d'accord pour un plus grand consensus autour de cet accord. C'est plus le temps de pouvoir parler du passé. Nous voudrons voir comment est-ce qu'on peut résoudre cette question sans qu'il y ait beaucoup de casse. Je voudrais que, de tout côté, qu'on soit coopératif pour qu'on arrive à être ensemble pour gérer ensemble la période qui suit la fin du mandat du président de la République.
Si déjà la Constitution n'a pas été respectée, est-ce que vous pensez que tout autre accord qui découlerait du dialogue pourrait être respecté?
Je suis positif. Dès lors qu'on s'est mis d'accord qu'il y aura l'élection en avril 2018, et tenant compte des réactions de la population qui apparemment est mécontente de voir qu'il n'y a pas d'élection, je crois que tout le monde comprendra qu'on a intérêt à pouvoir rester cet accord, parce que ça peut nous dans une grande crise.
Pour la coalition des Congolais pour la transition, toutes les institutions du pays sont désormais caduques, y compris les tout nouveaux gouvernements. C'est ce que dit son président Emery Damien Kalouira.
Nous constatons le vide du pouvoir. Nous appelons ici maintenant notre peuple à démarrer les actions de résistance populaire dans tout le pays. Nous allons mettre sur pied un gouvernement très inclusif.
Merci, Eddy Issango.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La piste d'un attentat se précisait hier après qu'un camion a foncé sur la foule lundi soir dans un marché de Noël au cœur de Berlin, faisant au moins 12 morts et 48 blessés, selon la police allemande qui pense avoir arrêté le conducteur. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, a indiqué dans la nuit que beaucoup de raisons laissaient penser qu'il s'agissait d'un attentat. L'enquête a été confiée au parquet fédéral, compétent pour les affaires de terrorisme. Un suspect a été interpellé, probablement le conducteur du poids lourd, auteur du carnage. Il serait arrivé en Allemagne comme demandeur d'asile en février 2016, d'après les services de sécurité. La crainte d'attentat d'ampleur nourrit le débat politique en Allemagne depuis plus d'un an. Les populistes de droite estiment, ainsi que la chancelière Angela Angela Merkel a mis en danger son pays en l'ouvrant en 2015 à près de 900 000 demandeurs d'asile, originaires pour l'essentiel du monde musulman. Un bilan provisoire du drame de lundi fait état d'au moins 12 morts et 48 personnes hospitalisées, dont certaines dans un état grave. Aucune indication n'a été donnée sur l'identité des victimes, si ce n'est que l'une d'entre elles était dans la cabine du camion. Angela Merkel n'a pas réagi dans les heures qui ont suivi, mais son porte-parole a indiqué sur Twitter qu'elle était en deuil.
À Ankara, un homme a ouvert le feu, aujourd'hui avant l'aube, devant l'entrée de l'ambassade américaine à Ankara, mais sans faire de victime, a indiqué la chancellerie en annonçant que toutes les représentations diplomatiques des États-Unis en Turquie seraient fermées pour la journée. L'auteur des tirs a été arrêté par la police. Auparavant, assassinat toujours à Ankara, hier, de l'ambassade de Russie en Turquie. L'assassin présumé est de la police. Eric Manirakiza.
L'ambassadeur Andrei Karlov prononçait un discours lors de l'inauguration d'une exposition d'art à Ankara. Un homme en costume noir et armé d'un pistolet a surgi derrière le diplomate et l'a abattu de plusieurs balles. Hurlant d'abord en arabe puis en turc, l'assassin a affirmé agir pour venger Alep en Syrie. L'agence de presse Anadolu précise que l'assaillant a été neutralisé au cours d'une opération. Il a été identifié plus tard comme policier et membre des forces anti-émeutes. Moscou a dénoncé un acte terroriste promettant de punir les assassins. Les États-Unis, l'Union européenne et la Syrie ont condamné l'attaque. Le régime de Bachar al-Assad en passe de reprendre Alep est soutenu par la Russie, tandis que la Turquie appuie les rebelles qui veulent renverser le président syrien. Une rencontre sur le dossier syrien est prévue pour aujourd'hui à Moscou entre les chefs de la diplomatie russe, turque et iranienne.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Au Sénégal, le groupe français de BTP a annoncé hier le début des travaux de la voie ferrée du futur train express régional qui va relier Dakar à son nouvel aéroport international Blaise Diagne et coûtera plus de 373 millions d'euros. Le train desservira 14 stations en 45 minutes. Dakar a déjà commandé 15 trains bimode, diesel et électrique, de 4 voitures chacun, capables de transporter 400 passagers à 160 km à l'heure. Extension au Maroc de 3 gares, dont Casablanca, dans le projet du train à grande vitesse TGV. Selon le directeur général de l'Office national de chemin de fer, ces gares de nouvelle génération seront des centres de vie et disposeront de magasins et de commerces. Un accord de prêt de 980 millions de dirhams marocains a été signé entre la Banque islamique de développement et les autorités du royaume. L'inauguration est prévue en 2018. Le géant de l'automobile Volkswagen a convenu de payer 2,1 milliards de dollars pour rembourser 105 000 consommateurs canadiens qui ont acheté un véhicule affecté par le scandale des émissions truquées. Chaque client recevra entre 5 000 et 8 000 dollars canadiens en fonction du type de véhicule à sa possession. La justice doit approuver cette entente avant de clôturer le dossier.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Retour ce mardi pour les champions d'Afrique de beach soccer à Dakar.
Oui, les Sénégalais ont remporté leur quatrième titre ce week-end à Lagos. Les Lions de la Teranga ont remporté dimanche l'édition 2016 en battant en finale le pays organisateur, le Nigeria, 8 buts à 4. Les Lions qui remportent ainsi leur quatrième titre de champion d'Afrique après 2008, 2011 et 2013. En plus de ce sacre, le Sénégal a réussi un sans faute durant ce tournoi en remportant tous ses matchs. On rappelle que le Sénégal et le Nigeria seront les deux représentants africains à la Coupe du Monde de beach soccer. Ce sera aux Bahamas l'année prochaine.
La Guinée-Bissau dévoile une pré-liste de joueurs sélectionnés pour la CAN 2017.
Oui, le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Bassirou Kandé, a dévoilé une présélection hier de 35 joueurs pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Parmi les sportifs convoqués, 9 n'ont jamais porté le maillot des Tchourtous. Pelé, qui joue au Vitória de Guimarães au Portugal, ou encore Yassaldé, qui joue aussi au Portugal, Francisco Junior, Mesca, Eliseu Kassama ou encore Mama Samba Baldé. A noter que l'attaquant Amido Baldé, passé par le FC Metz en France et actuellement au Maritimo au Portugal, n'a pas été convoqué, tandis que Bokunjika, sans club, fait lui partie de la liste. On rappelle Idrissa que la Guinée-Bissau est dans le groupe A lors de cette CAN avec le pays organisateur, le Gabon, mais aussi le Cameroun ou encore le Burkina Faso. Enfin, on vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Washington, Indiana, 105-107. Détroit, Chicago, 82-113. Atlanta, Oklahoma City, 110-108. Phoenix, Minnesota, 108-115. Et Dallas, Denver, 107-117.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Kinshasa et d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo ont connu une ambiance de ville morte hier. La présence policière était remarquable. Des cas d'arrestation, dont l'interpellation de l'opposant Franck Diongo, ont été signalés. Quelques chaînes de médias privés ont vu leurs signaux coupés. Eddy Isango a joint le coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Georges Kapiamba.
À Kinshasa, l'atmosphère générale était de ville morte, avec le fait qu'aucun leader de l'opposition ni de la société civile n'avait lancé des appels dans ce sens. On a constaté que la population elle-même a préféré de rester à la maison, ce qui fait que la plupart des magasins, des bureaux, des administrations n'ont pas fonctionné aujourd'hui. Nous avons noté quelques échafaudés aux cités universitaires de l'Université de Kinshasa. Arrestations. Nous avons noté l'arrestation de l'opposant Franck Diongo avec ses deux gardes de corps par les éléments de la garde républicaine. Très tôt le matin, deux chaînes de télévision ont vu leur corps être interrompu par le gouvernement, à savoir la chaîne de télévision CCTV de Jean-Pierre Bemba et une chaîne de télévision de moment Ralik. À Lubumbashi, selon mon sur terrain, on noté l'arrestation de six. Au niveau du quartier de Camille, quatre ont libéré, sont encore en détention jusqu'au moment où je vous parle. À Goma, où nous avons enregistré 25 personnes arrêtées, dont 12 membres de l'opposition nommément identifiés, un membre du mouvement Lucha. On a dispersé par-ci par-là des personnes qui voulaient se regrouper pour pouvoir manifester.
Est-ce que les gens ont quand même essayé de manifester?
Tout attroupement de plus de 10 personnes ou déjà de 10 personnes était immédiatement dispersé.
Monsieur Franck Diongo était le seul opposant à appeler les peuples à manifester. Est-ce que vous pensez que son arrestation est liée à ses déclarations?
Son arrestation est liée à cet appel-là parce que lui, effectivement, avait refusé de participer au dialogue. Il a eu même accusé à plusieurs reprises ses collègues du Rassemblement qui avaient accepté de participer au dialogue, considérant que c'était une trahison de la volonté populaire. Selon ses gardes, ils avaient constaté qu'il y avait la présence des éléments de sécurité qui étaient positionnés déjà non loin de sa résidence, comme pour dire qu'il était lui-même surveillé, qu'il ne pouvait pas sortir.
Joint hier à Kinshasa, Georges Kapiamba, coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Plusieurs mouvements sociaux africains comme Yanamar du Sénégal, Filimbi de la RDC et Ballet Citoyen du Burkina Faso prennent part depuis dimanche à une rencontre à Dakar pour échanger sur leurs expériences et l'avenir de leur lutte pour la démocratie. La rencontre prend fin aujourd'hui, mais l'actualité, notamment la Gambie et la RDC, n'a pas échappé aux discussions. Simon est un rappeur sénégalais, membre de Yanamar. Il a expliqué à Abdourahmane Dia l'intérêt d'une telle réunion.
C'est-à-dire au-delà du partage d'expérience, qu'on puisse s'entraider quand un tel a un problème chez lui, qu'on puisse faire le bruit ici au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, RDC, etc., etc. Donc c'est vraiment par rapport à ça qu'on a décidé de se rencontrer ici à Dakar, de discuter d'échanger, de partager un peu notre information et de tomber d'accord sur un cadre qui va permettre de connecter les mouvements citoyens africains entre eux, vu que nos États n'ont pas réussi l'unité africaine, créer une unité africaine des mouvements citoyens, au moins commencer par là.
La rencontre qui se tient à Dakar se tient dans un contexte particulier. Nous avons la Gambie et également la RDC, deux pays qui sont dans des situations politiques tendues. Alors que disent les participants à Dakar en ce moment ?
On voit vraiment aussi la similarité qu'il y a entre beaucoup de nos pays, beaucoup de ses dirigeants et surtout les actions qu'il faut mener. Le Sénégal n'est pas le Cameroun n'est pas RDC, la RDC n'est pas la Gambie. Donc comment essayer d'avoir une bonne synergie, comment toucher un peu toute cette Afrique, on va dire toutes ces personnes engagées pour qu'ils puissent servir de relais.
Est-ce que vous pensez que ces mouvements sociaux peuvent toujours impulser le changement un peu partout en Afrique, vous l'avez dit tantôt, tous les pays n'ont pas le même contexte.
Ils sont en train de le faire. On a vu ce que les citoyens ont réussi, il y en a marre. Ce que Filimbi et la Lucha sont en train de réussir en RDC. Donc aujourd'hui, je crois que c'est ce que fait Jeune Fort de Valsero au niveau du Cameroun. C'est ce que font ceux de Madagascar ainsi que le Tchad. C'est vrai que voilà, il n'y a pas la même force un peu partout. Mais au moins, ils puissent voir que certains l'ont réussi chez eux. Certains sont même en train de le réussir chez eux. Et qu'ils puissent s'en inspirer. Et surtout aussi en parler autour d'eux pour savoir que c'est possible, que le changement, il faut qu'il vienne d'eux.
Le rappeur sénégalais Simon, membre de Yanama.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Mali, polémique autour du communiqué conjoint sur la migration signé le 11 décembre 2016 entre le gouvernement et l'Union européenne. Bamako dit n'avoir signé aucun accord. Le ministre des Affaires étrangères, celui des Maliens de l'extérieur et le porte-parole du gouvernement ont fait plusieurs déclarations depuis sans convaincre l'opinion, nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
Depuis le 11 décembre, une polémique s'est installée entre les Maliens et certains membres du gouvernement suite à la signature d'un communiqué conjoint avec l'Union européenne sur la question migratoire. Abdramane Sila, ministre des Maliens de l'extérieur.
Cette histoire d'accord signé entre le Mali et l'Union européenne, c'est faux et cela relève que de la malversation. Le Mali n'a pas signé d'accord pour dire que nous allons rapatrier les Maliens partout où ils sont parce qu'ils n'ont pas de papier. C'est faux.
À l'association malienne des expulsés, le président de cette association se réfère à l'alinéa 4 du communiqué qui évoque le retour, la réadmission et réintégration des migrants en situation régulière. Ousmane Diarra, président de l'AME.
Le Mali n'a pas signé d'une manière, mais de l'autre manière, il a signé. Parce que c'est très très dangereux pour les Maliens. Ça va permettre à l'État européen d'expulser des Maliens dans les conditions légales, parce que le Mali a signé cet accord de réadmission. Dans les clauses même de déclaration conjointe, il y a des accords, il y aura une commission ad hoc qui vont travailler sur l'accord de réadmission et après cette commission, il va à valider la signature de cet accord.
Pour les Maliens, le gouvernement Ibeka, en allant dans le sens de ce communiqué, va compromettre la vie des milliers de Maliens qui vivent grâce aux appuis des migrants.
Le communiqué que nous avons eu est une honte pour les gouvernants et une trahison du peuple malien. Qu'est-ce qui amène d'ailleurs ces gens à quitter le Mali? C'est le désespoir. Le gouvernement n'a absolument rien fait pour donner l'espoir à ces jeunes, à tous ceux qui se sont retrouvés aujourd'hui en Europe, de rester au Mali.
Si le Mali s'est engagé à cette signature, je pense que c'est une dérive nationale. Il y a tellement de Maliens à l'extérieur qu'on ne peut pas imaginer. Il revient maintenant au président de la République lui-même d'expliquer correctement à son peuple ce qui s'est passé réellement avec l'Union européenne en matière d'immigration.
Défendant le communiqué conjoint, le ministre Sila des Maliens de l'extérieur dira qu'il s'inscrit dans la dynamique de la réunion de Valette consacrée à la gestion consensuelle des migrants.
La récente visite de Condors va dans le même sens de chercher les voies et moyens possibles pour s'attaquer
s'attaquer aux causes profondes de la migration. Et c'est ce que nous faisons. C'est un communiqué conjoint qui est différent quand même d'un accord. Un accord n'est pas signé.
Comme la polémique s'enflamme de jour en jour et que les ministres ne parviennent plus à convaincre les Maliens, les députés maliens ont interpellé le ministre des Affaires étrangères. Quant aux députés de l'opposition, ils ont introduit une motion de censure contre le gouvernement suite à cette affaire. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Nous vous le disions dans la première partie de cette édition. En Allemagne, un camion a foncé hier sur un marché de Noël à Berlin, faisant au moins 12 morts. Le pays est sous le choc, d'autant que l'attaque rappelle beaucoup celle qui s'était passée à Nice, dans le sud de la France. Idriss Fall a joint à Berlin Guy Kabengele, originaire de Kinshasa.
Ça va être très très difficile si jamais il ressort que ces gens-là avaient une migration, venaient de la Syrie, de l'Afghanistan ou du Pakistan. Ça va vraiment faire un très mauvais climat. Et l'année prochaine, nous avons les élections. Donc, si jamais c'est vraiment confirmé que c'est à caractère religieux, ben, l'extrême droite va monter, en fait. C'est ça qui est dommage, en fait.
Donc, Angela Merkel, qui a accueilli beaucoup de réfugiés syriens, était déjà critiquée pour ça, non?
Elle est déjà critiquée pour cette ouverture et avec l'attentat. Si vraiment ça se confirme que c'est religieux, mais ça va sûrement se confirmer puisque c'est le style Nice. Là, c'est catastrophique. Les élections l'année prochaine en septembre, l'extrême droite dans les Länder, dans les élections régionales, ils ont déjà 15-20%. Et là, c'est sûr qu'ils vont entrer au Parlement. Pas seulement avec 5%, ils vont sûrement avoir 10-15%. Si jamais ça se confirme, là, c'est ça qui est un peu malheureux dans cette histoire-là. Elle est très accueillante, ouvert les mains. Bon, c'est pas seulement l'Allemagne, la France aussi l'a faite, mais ça fait remonter la xénophobie, en fait, c'est ça. Surtout religieuse, si jamais ça se confirme. Mais on attend encore, la police est assez prudente concernant les informations.
Guy Kabengele, un habitant de Berlin, originaire de Kinshasa.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Retour sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, 3 ans après, seconde partie de notre série sur VOA Afrique. L'épidémie qui s'est propagée en Afrique de l'Ouest de fin 2013 à 2016 était la plus grave jamais enregistrée depuis que le virus Ebola a été identifié en 1976. Plus de 28 000 personnes ont été contaminées, quasi exclusivement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Plus de 11 000 ont trouvé la mort, selon l'Organisation mondiale de la santé. 3 ans après le début de cette crise sanitaire sans précédent, comment vivent les survivants? Où en est la recherche scientifique? Le monde est-il prêt à faire face à la prochaine épidémie? VOA Afrique a mené l'enquête en Guinée et en Europe auprès de ceux qui étaient en première ligne de la lutte contre Ebola. Zakaria Kamara s'est rendu à Kékédou pour voir comment le personnel soignant travaille et les mesures de précaution qui ont été prises.
Après le passage de l'épidémie d'Ebola en Guinée, la prudence semble la règle de conduite dans les services sanitaires. Ahmadi Kamara, surveillant général à l'hôpital préfectoral de Gekedou.
Je pense plus que la même situation se répète. Au staff matinal, nous avons désigné des agents qui contrôlent dans les différents services comment l'hygiène est appliquée.
Fini la surprise, même son de cloche à Kissoudougou, Fassiné Kamara, surveillant général de l'hôpital préfectoral.
Il faut le reconnaître maintenant que ça ne sera plus une surprise pour le personnel. Parce que chacun de nous est édifié, chacun de nous est informé, chacun de nous connaît ce qu'il faut faire. Bien sûr qu'on dit que Ebola est fini, mais pour le personnel, Ebola existe. Donc il faut toujours être dans les mesures de sécurité pour éviter une surprise désagréable.
Dans une salle de consultation, Karim Bangoura, médecin gynécologue, explique comment il se protège.
Depuis que la maladie là est venue chez nous, moi personnellement, je ne touche plus à une personne sans que je ne sois vraiment dans les normes. C'est-à-dire il faut que mes mains soient gantées, il faut que j'ai une solution de désinfectant à côté.
Avec un bilan macabre de plus de 2000 décès et malgré la déclaration de la fin de l'épidémie, l'OMS et ses partenaires, y compris les autorités guinéennes, recommandent la vigilance. Du retour de Gekedou, de Kissidougou, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.